Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique.
Bonjour à tous. Dans les cours précédents, nous avons vu comment, dans le contexte internationalisé du Nouvel Empire, le courtisan était amené à jouer un rôle d'intermédiaire avec les interlocuteurs étrangers du pouvoir pharaonique, ainsi que, pour certains de ces courtisans, un rôle d'ambassadeur. Donc, il les amenait à faire des séjours auprès des souverains étrangers, séjours qui pouvaient, on l'a vu, se prolonger très longtemps. Et de même, les ambassadeurs des partenaires internationaux de l'Égypte pouvaient être amenés à séjourner pendant de très longues durées à la cour de Pharaon. Alors, comme on peut l'imaginer, les interactions entre ces hommes, les ambassadeurs et les cours orientales qu'ils fréquentaient ne se limitaient pas forcément à des tractations diplomatiques, mais pouvaient donner lieu évidemment à des échanges culturels ou même scientifiques. Et de fait, on va le voir, les ambassades pouvaient aussi incorporer des experts, des artistes, et apporter aussi toutes sortes d'artefacts et de productions artistiques qui pouvaient eux-mêmes avoir aussi une influence sur les goûts et les pratiques de l'élite. Alors c'est toute cette problématique de l'influence étrangère, hein, avec un label assez général au départ. Nous verrons les problèmes complexes qui se posent pour ce type d'analyse. Donc c'est tout autour de cette influence étrangère que nous allons travailler aujourd'hui en analysant quelques exemples significatifs susceptibles d'éclairer donc ce phénomène. Rappelons d'abord que la rencontre entre une culture égyptienne et une culture étrangère, une culture proche orientale, s'est déjà produite avant le Nouvel Empire, hein, donc à la cour des Hyksos qui occupe le delta et sa capitale d'alors, Avaris, pendant la deuxième période intermédiaire. Nous l'avions vu avec la stèle de Camosis. Ce site d'Avaris était déjà, dès le Moyen Empire, la porte d'entrée commerciale des commerçants levantins venant en Égypte. Et c'est de là qu'entre le 18e et le 16e siècle avant Jésus-Christ, les rois Hyksos, donc de la 15e dynastie, vont contrôler les échanges commerciaux entre le Proche-Orient et la vallée du Nil. L'implantation donc de leur capitale à Avaris, hein, Tel Daba, au carrefour de l'Égypte et du Levant, va créer un espace qu'on pourrait appeler un espace d'hybridation culturelle. Alors précisément, des structures palatiales ont été fouillés à Avaris, Tel El Daba, par la mission autrichienne, dirigée donc par Manfred Bittak. Et on va s'intéresser précisément à l'un des palais Hyksos, fouillé au centre d'Avaris, dans le secteur qui se trouve au nord du village actuel de Ratana, dans la zone que les fouilleurs ont baptisée F2. Alors, dans ce secteur, donc, des structures palatiales sont apparues, structures qui, donc, selon les archéologues, ne présentent aucune ressemblance avec les palais égyptiens, lesquels ont normalement une structure symétrique en pièces successives. Mais ici, donc, par sa structure carrée additive, ce palais présenterait davantage de parenté avec les palais du Proche-Orient. Et des parallèles ont notamment été établis avec des palais du site d'Ebla. Alors, certaines particularités du site éloignent aussi des cadres égyptiens ce palais pour pointer vers des influences proche-orientales. Donc, peut-être le plus emblématique, c'est cette sépulture de cheval, plutôt d'ailleurs une jument, qui a été soigneusement aménagée en lien avec le palais, qui révèle donc une pratique d'inhumation d'un animal probablement très apprécié du souverain des lieux. Donc on est dans un contexte de cour, hein, de palais de type royal, mais avec en plein cœur de l'Égypte une structure qui renvoie beaucoup plus aux pratiques proche-orientales. Alors la zone du palais a révélé, a livré dans un contexte de rebut, hein, il faut le préciser, plusieurs scellés au nom du roi Hyksos Rayan. Donc on va reparler d'ailleurs de ce roi de manière plus développée, car ces scellés ont trouvé en quelque sorte des parallèles avec la découverte de scellés au nom du même roi dans un bâtiment administratif d'Edfou. Hein, là, on est en pleine Haute-Égypte, donc un bâtiment fouillé par l'équipe de Nadine Müller et Grégory Marois, qui est venu éclairer aussi d'un nouveau jour le règne de Rayan et sa chronologie. Alors, on ne va pas s'apesantir sur le contexte archéologique. On a une zone marquée par des colonnes dans les niveaux inférieurs qui a été ensuite recouverte de silos de stockage. Et donc, dans ce bâtiment administratif d'Edfou, ont été retrouvés un grand nombre de scellés, hein, d'empreintes de sceaux d'un type, ce qu'on appelle le type palestinien, donc réalisé avec des sceaux scarabées, donc issus de régions septentrionales, donc du nord, Tel el Daba ou la Syrie-Palestine. Or, dans ce même contexte, ont été trouvés aussi une série de scellés qui appartiennent, eux, au type caractéristique de la fin du Moyen Empire égyptien, donc notamment règne d'Amenemhat III, à la fin de la 12e dynastie, et Sobekhotep IV, roi de la 13e dynastie. On les voit avec l'emplacement de ces scellés qui montrent que le contexte est globalement cohérent, hein, ce qui est assez rare. Et donc on a là une sorte d'analyse archéologique qui peut, quand elle est soigneusement faite, confirmer qu'il y a en quelque sorte un contexte commun à ces scellés du roi Rayan, donc de la 15e dynastie, et donc ceux de les plus récents de Sobekhotep IV de la 13e. Donc tout cela a amené les fouilleurs de l'équipe américaine à conclure que ce souverain Rayan a régné lors de la première phase de domination Hyksos, alors qu'on le plaçait plutôt un peu plus tard dans la dynastie, et que, chose très importante, donc la fin de la 13e dynastie égyptienne et le début de la 15e dynastie Hyksos se recouvrent. Hein. Donc c'était un apport aussi fondamental. On a une sorte de coexistence avec des relations commerciales suivies entre la Haute-Égypte, donc à la fin du Moyen-Empire, et les Hyksos, avec des envois de denrées. Alors on peut même penser que ces empreintes de sceaux étaient associées à des produits qui étaient envoyés en cadeau diplomatique, hein, c'est pas exclu. Donc une coexistence qui a l'air pacifique donc, entre les deux entités à la fin du Moyen-Empire. Alors les choses sont souvent parfois trop simples en apparence, puisque évidemment on a eu beaucoup d'autres discussions sur cette trouvaille et sur la manière dont ça éclaire l'époque Hyksos. Vous trouverez un dernier état de la question et des débats dans un colloque qui a été organisé par Irénée Förster-Müller et Danny Müller sur précisément le souverain Hyksos Rayan et le début de la seconde période intermédiaire à la lumière de ces découvertes qui est paru donc en 2018. Et quand on lit donc l'ensemble de ces contributions du colloque, hein, des spécialistes qui ont travaillé tous ensemble sur les sur des sites différents, mais avec des données nouvelles, on peut en conclure que le positionnement du règne de Rayyan au début de la 15e dynastie semble faire maintenant l'unanimité. La contemporanéité de son règne avec celui de Sobekhotep IV, par contre, a soulevé de fortes objections. Et certains chercheurs, comme par exemple Daphna Bentor, donc spécialiste aussi des empreintes de sceau et des scarabées, considèrent comme quasiment impossible de rapprocher en quelque sorte, en fonction de la typologie actuelle des scarabées, ceux de Sobekhotep IV et de Rayyan comme faisant partie d'une même période chronologique. Et donc elle en vient à dire qu'il s'agit d'une erreur méthodologique de tirer des conclusions chronologiques à partir de la présence de scarabées ou d'empreintes de sceaux de différentes périodes dans un même contexte archéologique. Alors que ça peut sembler la panacée, la réponse à une question de pouvoir, dans une même couche, relier des artefacts qui portent des cartouches différents pour les synchroniser, en fait, ces trouvailles ne permettent que de déterminer le terminus postquem du contexte dans lequel ils ont été trouvés. Mais la datation du contexte doit reposer davantage sur les assemblages céramiques. Donc vous voyez la complexité aussi, c'est pour ça que je m'attarde aussi sur ce cas, c'est que la complexité du débat égyptologique, on ne peut jamais s'appuyer réellement de manière définitive sur des analyses qui pourtant ont l'air assez éclatantes. Il faut toujours évidemment remettre en contexte, dans une perspective très large, l'ensemble de la documentation pour pouvoir progresser dans l'interprétation générale. Donc cette coexistence pacifique de la fin de la 13e et du début de l'époque Hyksos, elle reste pour le moment un peu en débat. Hein. On peut quand même avoir des phases qui se sont succédées avec un certain laps de temps sans pouvoir postuler forcément une contemporanéité donc du règne de Sobekhotep IV et du début de la 15e dynastie. Alors si on revient maintenant à Tel el-Daba, donc à Avaris, on notera aussi que dans le palais de palais Hyksos, hein, fouillé par l'équipe de Manfred Bitak, a été découvert aussi un fragment de lettres diplomatiques portant quelques mots en akkadien, donc qui témoignent d'échanges diplomatiques avec les royaumes orientaux. Alors, cette lettre a été trouvée dans des niveaux donc contemporains de la 15e dynastie et a été attribuée à la dernière phase de la première dynastie de Babylone. Et à partir de ce fragment, même s'il est totalement réduit en dimension, Manfred Bitak écrivait qu'il faut se poser la question maintenant de savoir si ce ne sont pas les Hyksos qui ont introduit en Égypte la diplomatie épistolaire à longue distance en akkadien, 150 ans avant la période amarnienne. Et la question qu'il pose est effectivement est légitime, puisqu'on avait vu aussi avec le témoignage de la deuxième stèle de Camosis, dans laquelle est décrite l'interception d'un courrier diplomatique adressé par le souverain Apopi au souverain de Kerma. On avait vu que les codes diplomatiques qu'on retrouve ensuite dans la correspondance d'Amarna existait déjà mise en place dans ces échanges entre les deux souverains. Donc on a effectivement de fortes présomptions pour penser qu'on a déjà un fonctionnement basé sur une correspondance diplomatique, alors ici effectivement avec l'emploi de l'acadien, qui pourrait préfigurer hein, ce qui va se développer déjà ensuite fortement à la 18e dynastie. Alors pour ce qui est du reste de la culture matérielle, hein, je ne peux pas ici entrer dans les détails, la fouille du site de Tel Daba a révélé que la culture matérielle Hyksos emprunté largement à un fonds originaire de Syrie, du Nord, mêlé à des éléments de tradition égyptienne. Et ça, c'est aussi important à noter, même si, effectivement, on a des souverains d'origine proche-orientale qui se targuent de leur titre de Hekar Rasout, donc chef des pays étrangers, hein, qui va donner Hyksos. Ceux-ci ont aussi une volonté certaine de se conformer au modèle pharaonique. Et d'ailleurs, sur les scellés du roi Rayan, notamment, on va avoir le titre de Hekarasout, chef des pays étrangers, qui va coexister avec la titulature fils de Ré, Sa-Ré, qui marque donc le titre du pharaon à la mode égyptienne. Et finalement, d'ailleurs, c'est cette titulature égyptienne qui va être ensuite privilégiée. Certains témoignages, notamment issus d'autres sites d'Égypte qu'Avaris, montrent l'incorporation de la culture de cour égyptienne par les souverains Hyksos. Alors finalement, la modalité la plus économique, pourrait-on dire, de cette incorporation, c'est l'usurpation de statut royal de leurs prédécesseurs égyptiens, sur lesquels ils ajoutent leur nom, et vous avez cet exemple très connu du sphinx d'Amenemhat II découvert à Tanis, hein, qui vient probablement d'ailleurs dans le delta, qui a été usurpé par Apopi, et il sera ensuite usurpé par d'autres rois à l'époque ramesside, puis à l'époque libyenne. Alors on peut donner aussi quelques autres exemples de cette idéologie en quelque sorte égyptianisée des rois Hyksos, même si bon, on aimerait avoir plus de contexte pour cette palette de scribes d'Atou, hein, qui date du règne d'Apopi, qui est censé avoir été découvert à Medinet El Fayoum, mais bon, c'est une origine qui n'est pas possible de corréler à une découverte archéologique. L'inscription de cette palette la définit comme ayant été faite pour le roi, le scribe de Ré, que Thoth a lui-même éduqué et qui ensuite aurait été donnée par le roi au scribe Atou. Donc on a ici au nom d'un roi Hyksos un texte qui relève typiquement de l'idéologie et de la mythologie égyptienne. Et ce roi semble même l'auteur d'un enseignement qui commence par une captatio benevolentiae, d'une véritable adresse rhétorique. Écoutez, homme, c'est la vérité. Il n'y a pas là de mensonge et il n'y a rien d'équivalent dans aucun pays. Et ensuite, on a un éloge du roi, une condamnation de ceux qui ne se plieraient pas à son autorité. Donc on a une sorte d'adoption de la rhétorique pharaonique par les souverains Hyksos, preuve de ce mélange des cultures qui se déployait très certainement donc à la cour d'Avaris. Et évidemment aussi tout ce qui nous est dit sur les contacts des rois de la 17e dynastie et de la cour d'Avaris, par la stèle de Camosis, par des textes littéraires postérieurs, hein, donc je pense à la querelle de Sekenenre et d'Apopi, qu'on avait évoquée. Tout cela témoigne aussi de contacts qui existaient entre les deux mondes. Donc il n'est pas surprenant qu'après la réunification de l'Égypte par les Thébains, à la suite des guerres de Camosis et d'Amosis, la région du Delta, qui demeurait au cœur des échanges commerciaux, soit restait un creuset de mélange des cultures, particulièrement dans les villes portuaires, Memphis et Avaris. Bien que les Hyksos aient été érigés en sorte de repoussoir de l'égyptianité par les souverains de la 18e dynastie, et étaient associés pour la postérité à une sorte de renversement des valeurs pharaoniques, leur période de domination sur le nord de l'Égypte constitue une expérience décisive de rencontre de la culture égyptienne et de celle du Levant, qui va préparer la voie à l'ouverture qui va être faite au Nouvel Empire, aux influences proche-orientales, comme on va le voir. Alors maintenant, si on réfléchit plus généralement à la question des relations entre la cour pharaonique au Nouvel Empire, cette fois, et l'étranger. Alors il y a beaucoup d'aspects différents à cette question qu'on va essayer d'envisager les uns après les autres. Je voudrais d'abord envisager en quelque sorte la dimension humaine et sociale. Et effectivement, des étrangers, ou définis a priori comme tels, au vu du nom qu'ils portent ou du nom de leurs parents, ont en effet accédé à de hautes fonctions à la cour, mais comme on va le voir, il convient toujours d'être prudent quand on identifie un personnage comme un étranger. Alors il y a un cas évidemment fascinant, qui est celui du vizir Aper-El, donc un vizir dont Alain Zivi a découvert la tombe en 1976, donc il a en fait redécouvert, puisque Pétri y était entré brièvement en 1881, donc une tombe qui fait partie donc, du site du Boubastéion, hein, qu'on a déjà vu à l'occasion de l'étude de la tombe de Netcherouimès. Alors ce vizir, Aper-El, a exercé ses fonctions sous les règnes d'Amenhotep III et Amenhotep IV à Kénaton, sans qu'on sache exactement s'il était toujours véritablement en activité lors du transfert de la capitale à Amarna. Alors malheureusement, sur ce personnage, on a la chance évidemment d'avoir sa tombe, mais on a très peu d'autres documents, quasiment aucun, qui viennent éclairer en quelque sorte le cursus, la carrière de cet homme de cour, en dehors donc des informations fournies par sa sépulture. Alors, comme l'a démontré Alain Zivi, ce personnage porte un nom d'origine sémitique, hein, ce qu'on lit en hiéroglyphe Aper-El étant la transcription égyptienne du nom Abdiel, la première partie rendant le mot sémitique Abed, donc Abd, Abdou, qui veut dire serviteur, et la seconde renvoyant au dieu El, au nom d'un dieu cananéen, qui est devenu ensuite le nom divin dans les écrits bibliques. Donc Aper-El ou Abdel ou Abdiel a porté les titres de maire de la ville, vizir, mais aussi père divin et chef de la charrerie, donc une haute fonction militaire. Notons aussi qu'il porte le titre d'envoyé du roi, hein, Uputinesu, que nous avions rencontré dans l'analyse des titres des ambassadeurs. On notera aussi qu'un de ces titres importants, c'est celui d'enfant du Cap, un titre dont la réelle portée a été beaucoup discutée. En tout cas, ça renvoie au fait que ce haut personnage a reçu une éducation à la cour en même temps que le roi. Alors au final, le nom que porte Aper-El semble à minima renvoyer à une origine non égyptienne, même si en fait on ne connaît rien de ses origines familiales, mais son éducation en revanche est totalement égyptianisée, tout comme l'est la décoration de sa tombe et son mobilier funéraire. Son fils et héritier portera, lui, un nom purement égyptien, donc Amenhotep, alias Oui. Dans ces conditions, tout ce que l'on peut déduire, finalement, à l'heure actuelle, sans tomber dans le romanesque, c'est que un courtisan de très haut statut pouvait arborer un nom à consonance étrangère sans sentir la nécessité, donc, de l'égyptianiser. Alors ensuite, il y a eu toute une, des débats qui ont pu effectivement naître, et puis des hypothèses qui ne peuvent pas ne pas émerger sur l'identité de cet Apérel. On en a même fait un proto-Joseph, hein, le Joseph de la Bible. Mais évidemment, tout cela n'est pas étayé sur des constats archéologiques à l'heure actuelle. Alors on a donc un cas d'un personnage qu'on qualifierait volontiers d'étranger, incorporé directement dans la hiérarchie de la cour. En fait, d'un point de vue méthodologique, est-ce que ce terme étranger a un sens pour nous? Alors, on peut s'appuyer sur les travaux de Thomas Schneider, hein, qui a beaucoup œuvré sur cette question de l'étranger en Égypte, hein, plusieurs monographies, et puis un article en 2006, Acculturation, Identité, Élite, Culture, qui fait le point sur cette question, qui tente de cerner la place de l'étranger dans l'élite égyptienne. Et il signale notamment ce fait important que la distinction qu'on fait entre Égypte versus contrée étrangère est en fait à relativiser du fait que les contrées d'où provenaient les émigrants, la Nubie et le Levant, avaient reçu depuis des siècles une forte influence de la culture égyptienne, ce qui avait profondément ancré la langue, la religion et l'idéologie égyptienne chez eux. D'où le fait que finalement les élites étrangères, entre guillemets, provenant de ces contrées, étaient déjà imprégnées de la culture égyptienne locale, ce qui a facilité considérablement leur immigration vers l'Égypte et leur acculturation. Alors, deuxième point soulevé par Schneider, c'est que sur le plan terminologique, la catégorie « étranger » en Égypte est finalement dénuée de sens compte tenu de la grande diversité des origines et des modes de vie égyptiens. Il n'existe pas de communauté homogène fondée sur une origine ou une ethnie non égyptienne. Même en Égypte, ces individus à différents stades d'acculturation ne sont pas désignés par un terme abstrait comme celui d'étranger, et ce terme, finalement, d'un point de vue méthodologique, n'a qu'une utilité limitée. Et donc, il va plus loin en disant qu'à la cour égyptienne, il n'existait pas donc d'étrangers au sens strict, seulement des Égyptiens d'origines diverses. Le facteur déterminant, c'est l'importance accordée au statut social et à l'appartenance à un groupe social. Donc, au final, dans la continuité du raisonnement de Thomas Schneider, il en vient finalement à déconstruire en fait tout ce qu'on peut dire d'une sorte de culture d'élite ou culture de cour, si l'on veut caractériser en quelque sorte l'ensemble de ces acteurs impliqués dans la cour du Nouvel Empire. En fait, il est difficile de regrouper sous une même étiquette les parcours et les univers de vie de ces individus, car l'uniformité postulée, dit-il, des normes et des potentiels de vie n'était pas présente. Il paraît plus plausible pour lui de supposer l'existence de différents sous-systèmes au sein de la culture d'élite du Nouvel Empire, dont les codes se sont développés et ont évolué progressivement avec la participation des membres de l'élite et du roi. Ce qui fait que, bon, évidemment, d'un point de vue méthodologique, il plaide pour une reconstitution d'un processus d'intégration de famille ou d'environnement de vie particulier, avec une approche finalement fondée sur des micro-histoires, avec des données qu'on peut exploiter de manière qualitative et quantitative à la fois. Alors évidemment, ça reste quand même largement un vœu pieux à partir du moment où les données précises sur ces individus manquent largement. Mais en tout cas, il faut retenir le caveat méthodologique de Thomas Schneider sur une interprétation trop générale de ce statut d'étranger à la cour. Alors un cas quand même qui laisse penser que des îlots étrangers étaient incorporés à la cour pharaonique, c'est le cas particulier des princesses étrangères qui sont installées à la cour du pharaon suite à des mariages diplomatiques et donc qui viennent entourées d'un très large groupe d'accompagnants. Nous avions vu le cas célèbre donc du mariage de l'an 31 de Ramsès II avec la princesse Hittite, évoqué par donc le texte de la stèle du mariage, avec l'arrivée en grande pompe de cette princesse à Pi Ramsès. Elle est accompagnée par une escorte qui porte un grand et riche tribut dans sa suite et donc va s'installer dans un palais de Pi Ramsès. Elle va recevoir un nom et une titulature égyptienne, donc elle devient l'épouse royale Maat Hor Neferouré. Alors, on ne précise pas l'ampleur de la suite qui l'accompagne, hein, on n'a pas de nombre exact, mais on sait par contre, par la correspondance diplomatique entre les souverains hittites et notamment la reine-mère Pudurepa, que les conditions de l'installation de cette princesse ont été âprement négociées, notamment pour qu'elle puisse recevoir librement les émissaires hittites hein, qui lui rendraient visite. En revanche, on a une idée de l'entourage qui accompagnait certaines princesses envoyées en Égypte sous Amenhotep III, par le témoignage donc des scarabées commémoratifs émis par le pharaon Amenhotep III, 18e dynastie. C'est des sortes de faire-part de mariage envoyé Urbi et Orbi. Alors celui qui est à l'image a été publié par Orly Goldwasser. Il vient de Bet-Shean dans la vallée du Jourdain. Et donc ces scarabées de cette série ont été envoyés à l'occasion du mariage d'Amenhotep III avec Kirghipa, qu'on appelle aussi Gilurepa, la fille du roi du Mitanni, donc Shutarna II. Et à la fin du texte du scarabée, alors il est ici un peu dégradé, mais on peut le restituer par les parallèles, on nous liste donc les merveilles apportées à Sa Majesté Amenhotep III, Gilurepa, donc la fille du roi de Naharina Shutarna, avec l'élite de son harem, à savoir 317 femmes. Donc, avec un groupe donc, de la princesse accompagnée donc, d'un harem de 317 femmes, on peut imaginer donc, qu'une telle communauté ne se fondait pas très rapidement dans la cour pharaonique, hein, qu'elle constituait, au moins pour un certain temps, une sorte d'îlot étranger à la cour. Alors Silke Roth, que l'on avait évoqué la semaine dernière à travers son article analysant le fonctionnement diplomatique de la cour de Ramsès II, rappelle que le lieu de résidence des princesses étrangères et de leur harem servait précisément de représentation diplomatique pour la puissance dont elles étaient originaires, et donc les émissaires étrangers résidaient auprès d'elles. Donc elle cite, à l'appui de cette affirmation, plusieurs extraits des lettres d'Amarna ou de la correspondance égypto-hittite qui corrobore donc cette affirmation. Donc on avait finalement la création de secteurs étrangers au sein de la cour pharaonique qui fonctionnaient aussi comme des ambassades permanentes, hein, qui permettaient une sorte de communication à plusieurs bandes aussi entre la cour pharaonique et puis les cours étrangères à travers ces relais installés à proximité donc du pharaon. Et il y avait aussi, par le même processus, par le biais des mariages diplomatiques, un processus à l'œuvre d'incorporation de larges communautés étrangères au fonctionnement même de la cour, puisqu'ils étaient partie prenante directement à la vie de la cour pharaonique. Alors la présence d'individus étrangers à la cour peut aussi répondre à une volonté exprimée par le souverain et ses courtisans de bénéficier d'un savoir particulier ou du savoir-faire d'experts ou d'artistes réputés qui viendraient d'horizons lointains. Alors, une référence souvent citée sur cette question, c'est l'article de Carlo Zaccanini, Patterns of Mobility Among Ancient Near Eastern Craftsmen, donc, qui liste de nombreux exemples d'échanges d'artisans, d'experts, entre les cours orientales, entre elles et puis avec l'Égypte, ou donc sur demande de l'un ou l'autre souverain, demande souvent express, on envoie tel ou tel expert auprès donc de son voisin. Alors on a parfois des choses assez énigmatiques, hein, comme cette lettre du roi d'Alachia, là c'est la tablette EA35 d'El Amarna, qui demande au souverain égyptien, envoie-moi avec d'autres produits, un des experts en augure par vautour. Alors on s'est beaucoup interrogé, hein, sur ce type d'expertise, hein, qui ne semble pas attesté à la cour égyptienne. On pourrait d'ailleurs aussi penser qu'il s'agissait d'un expert étranger qui se trouvait installé à la cour égyptienne. Mais là, on manque de sources pour éclairer ce passage. Alors, de manière générale, ce que montre déjà Zaccanini et qui a été déjà ensuite repris par d'autres commentateurs, c'est que les rois d'Égypte sont davantage dans la position d'envoyer leurs experts à l'étranger plutôt que de recevoir ceux des autres cours. Ils ont une sorte de domination symbolique qui fait qu'on les sollicite, le savoir égyptien étant considéré comme irremplaçable. Alors, généralement, ce qu'on recherche avant tout, ce sont des médecins. Hein, on sait que la cour égyptienne exporte des médecins chez ses voisins orientaux, notamment à la cour hittite, où Ramsès II envoie plusieurs médecins, comme l'atteste donc la correspondance égypto-hittite. Hein, ça avait fait l'objet d'une étude spécifique de Elmar Edel, qu'il a reprise ensuite dans sa publication de la correspondance diplomatique entre Ramsès II et le pouvoir hittite. On sait que le roi hittite, donc Atoussili III, souffrait d'une infection oculaire et qu'il demandait régulièrement donc au souverain égyptien de lui envoyer des médicaments et des médecins. Et donc Ramsès II va lui envoyer donc un médecin Parimahou et des médicaments. Alors on a une autre lettre que vous avez aussi à l'écran qui est particulièrement savoureuse. C'est une lettre à Hattusili III où Ramsès II semble s'étonner là, de la requête de son frère, hein, le roi Hittite, au sujet de sa sœur Matanasi qui a été mariée à un roi vassal. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Ramsès II, sans grande expertise médicale, lui dit « Voici Matanasi, la sœur de mon frère, elle a 50 ans ou 60 ans. Et voici une femme de 50 ans, une femme de 60 ans, pour laquelle aucun remède ne peut être préparé pour lui permettre d'avoir des enfants. » Alors on sent que dans la deuxième partie de la lettre, il cherche quand même à répondre à l'obligation diplomatique en disant que le dieu soleil et le dieu de l'orage donnent un ordre en sa faveur, car la guérison magique qu'ils apporteront a déjà été accomplie pour la sœur de mon frère. Et moi, le roi, ton frère, j'enverrai un prêtre conjurateur compétent et un médecin compétent, et ils prépareront un remède pour son enfantement. Et il accompagne cet envoi d'un cadeau. Alors, avec l'étude de la chronologie qu'on peut affiner à partir de différentes sources pour cette période, Trevor Bryce a calculé qu'effectivement la sœur d'Hattusili III devait avoir 58 ans au moment de la requête de son frère. Et donc on voit que Ramsès II allie franchise et diplomatie pour répondre au roi Hittite, puisque voilà, la requête était difficile à refuser et même en même temps à exaucer, mais on voit que la confiance dans les formules magiques et les pratiques médicales restait quand même intacte. Alors, dans l'autre sens, au moment où la princesse Hittite, mariée à Ramsès II, va se trouver enceinte, le médecin Parimahou et probablement deux autres médecins, par ailleurs anonymes, de Hattusili III, vont être envoyés depuis la cour Hittite vers la cour de Ramsès II. Donc, pour soigner la princesse, on peut imaginer que cette princesse étrangère se trouvait aussi rassurée d'être accompagnée, suivie par des médecins originaires de sa patrie. Alors, on l'a vu avec le cas de Matanasi à l'instant, médecine, magie et rituel sont intimement imbriqués. Et il y a un autre phénomène qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une sorte de plus-value accordée à la médecine et à la magie à partir du moment où elles sont d'origine étrangère. Dans chacune des cours du Proche-Orient et d'Égypte à l'époque, la magie étrangère acquiert un prestige qui peut dépasser celle en vigueur localement. Et de fait, en l'an 36, par exemple, du règne d'Amenhotep III, celui-ci semble avoir demandé au roi du Mitanni, donc Tushratta, l'envoi d'une statue guérisseuse d'Ishtar Shaushka. Et pour reprendre donc le commentaire de Christian Zivikoche dans son article « Dieu autre et Dieu des autres », c'est comme si, en quelque sorte, la prophylaxie de l'autre était investie d'un pouvoir supérieur à celui des dieux autochtones, implorés quotidiennement. C'est à vrai dire un trait caractéristique du dieu autre qui protège efficacement, que l'on retrouve dans le statut des dieux syro-palestiniens installés en Égypte. Donc il y a Il y a un pouvoir particulier de la statue du dieu exotique hein, qui vient en Égypte et qui va apporter ce savoir étranger censé être supérieur ou en tout cas ou répondre à d'autres besoins que celui fourni par les rituels et les dieux égyptiens. Alors, la lettre de Tushratta à Amenhotep III, vous l'avez en face des dieux, il fait parler la déesse en quelque sorte. Ainsi parle Chaoshka de Ninive, maîtresse de tous les pays. Je désire aller en Égypte, un pays que j'aime, et ensuite m'en retourner. Maintenant, avec sens. Et donc le roi dit : maintenant, avec ceci, je te l'envoie, et elle est en route. Et il évoque une visite précédente. Sous Thoutmôsis IV, de cette même statue, du temps de mon père, alla dans ce pays, et juste comme auparavant, elle demeura là et on l'honora, que maintenant mon frère l'honore 10 fois plus qu'auparavant, que mon frère l'honore à son gré qu'il la laisse partir de sorte qu'elle puisse revenir. Donc là, évidemment, il y a toujours l'aspect aussi intéressé de la question où le roi souligne qu'il serait important que Amenhotep III fasse un effort bien supérieur à ce qu'avait fait Thoutmôsis IV en termes de gratification de la statue divine. Et puis ça se termine par cette phrase que Chaoshka, la maîtresse du ciel, nous protège, mon frère et moi-même, 100 000 ans, et que notre maîtresse nous accorde à tous deux grande joie et que nous agissions en amis. Chaoshka est-elle pour moi seule déesse personnelle, n'est-elle pas aussi pour mon frère sa déesse personnelle? Alors, plusieurs commentateurs, et on continue toujours à le faire, ont pensé qu'il s'agissait d'une statue guérisseuse hein, qui pouvait aussi répondre aux problèmes de santé hein, qu'aurait connu Amenhotep III vers la fin de son règne. En fait, certains commentateurs ont aussi mis en doute hein, cette interprétation, Moran notamment, qui ne pense pas que le but de cette visite ait été la guérison du pharaon. La question a été reprise aussi par Gestoso Singer, qui suggère que la statue a pu être aussi envoyée suite au mariage d'Amenhotep III avec une princesse mitannienne. Et donc, l'un des pouvoirs de cette déesse, Chaoshka, est de protéger aussi les enfantements. Donc, elle a pu aussi accomplir ce rôle. Donc, il faut rester prudent, évidemment, dans la lecture de ces lettres d'Amarna, souvent très allusives. Hein, on a tendance à plaquer aussi des schémas d'interprétation qui ne reposent pas sur des faits extrêmement précis. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y avait là une sorte d'échange de bons procédés de protection magique via une statue divine entre donc les deux cours, hein, celle d'Égypte et celle du Mitanni. Donc, qu'Amenhotep III a reçu cette statue en prêt, en quelque sorte. Et évidemment, on imagine qu'accompagnant cette statue, il devait y avoir un ou plusieurs ritualistes, spécialistes du culte de cette divinité, qui pouvaient donc mettre en œuvre les rituels qui lui étaient associés. Donc en filigrane de ce voyage de la statue divine, il y a forcément aussi l'implantation provisoire de délégations de prêtres et de magiciens qui fréquentent la cour pharaonique, et on a des témoignages aussi de rituels magiques à forte influence proche-orientale qui circulent dans l'Égypte de la 18e dynastie et un peu plus tard. Alors un autre domaine dans lequel l'influence étrangère se fait sentir à la cour pharaonique, c'est la production artistique. Alors, on l'a vu, les échanges diplomatiques étaient quasiment systématiquement associés à des cadeaux. On sait aussi que l'une des activités majeures des courtisans aux marges de l'Égypte était de collecter les tribus en Nubie ou dans les régions proche-orientales pour alimenter la cour en richesses, soit sous forme de matériaux, soit sous forme d'objets qui sont offerts solennellement au pharaon. Donc on a finalement un afflux très important de ces objets d'art à la cour d'Égypte, mais aussi évidemment par le biais des échanges permanents dans les différentes cours d'Orient. Alors certains auteurs, et en premier lieu donc William Stevenson Smith, ont voulu définir un point commun aux productions de cette période, ce que l'on appelait le style international, international style. Une sorte de koiné, hein, de culture commune qui aurait réuni l'Égée, le Proche-Orient et l'Égypte. Alors ça a parfois été défini plutôt comme un répertoire international faisant usage donc de motifs qui sont utilisés par ces différentes aires culturelles et qui se ressemblent très nettement les uns avec les autres, le sphinx, l'arbre stylisé, le disque ailé. Et pour Smith, ce sont ces échanges entre les différentes cours qui amorcent le développement de ce style international au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce phénomène va ensuite culminer à l'époque des lettres d'Amarna. Alors ce concept de style international a été largement adopté ensuite après Smith par de nombreux chercheurs qui ont notamment continué à établir des répertoires de ces motifs qu'on retrouve dans différents lieux hein, du Proche-Orient, d'Égypte et du monde égéen, en les mettant en parallèle, hein, notamment Janice Corley, en 1989, a publié un ouvrage qui s'appelle « The Aegean and the East, an investigation into the transference of artistic motifs between the Aegean, Egypt and the Near East in the Bronze Age ». Et elle collecte les différentes attestations de mêmes motifs en les classant par type de motifs. Vous avez une des planches de son ouvrage ici. Alors Janice Corley a surtout utilisé ce concept de style international pour l'appliquer aux petits objets précieux datant de la fin de l'âge du bronze qui, selon elle, présentent des motifs intégrés et cohérents et qui sont dépourvus de style national distinct. Donc pour elle, ce qui est caractéristique du style international, c'est évidemment la récurrence de ces motifs, mais aussi le fait qu'on n'a pas d'attribution possible à une origine géographique précise, ce qui rend évidemment l'objet attribuable plutôt à une communauté culturelle plutôt qu'à un lieu précis. Alors en 2006, le concept de style international a fait l'objet d'une étude très détaillée avec une élaboration conceptuelle très approfondie par Marianne Feldman dans un ouvrage intitulé « Diplomacy by Design ». Alors c'est tout à fait effectivement la problématique aussi qui est la nôtre aussi, c'est de voir comment l'art contribue aux échanges diplomatiques. « Luxury Arts and an International Style in the Ancient Near East », donc entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. C'est paru à Chicago en 2006. Alors vous avez sur la couverture un des objets finalement emblématiques de ce qui est considéré comme le style international, donc un sort de pichet en argent qui a été retrouvé à Tel Basta, dans le delta et sur lequel on va revenir ensuite. Alors Feldman part surtout du lien entre les objets du style international et les échanges diplomatiques. Pour elle, ce qui est au cœur même de l'existence de ce style international, c'est l'interaction entre les différents royaumes. Et en fait, elle voit en fait la raison d'être de ce caractère hybride du style, donc mélange de motifs égyptiens et de motifs proche-orientaux ou égéens. Elle voit dans cette hybridation donc la suppression de toute prédominance locale, ce qui permettait une sorte de neutralité de l'objet acceptable par toutes les parties prenantes. On aurait donc ce qui s'appellerait une koiné artistique internationale qui partagerait donc des motifs et des thèmes, qui partagerait aussi des compositions, ce qu'elle appelle un idiome, des techniques, des matériaux et des types d'objets. Donc là, le concept permet de justifier finalement l'existence d'un style artistique qui est en fait le véhicule de la diplomatie qui s'établit entre les différentes cours, en pensant que justement ce mélange, cette hybridation est une part en fait d'un compromis en fait qui s'établit entre les différentes civilisations pour en quelque sorte neutraliser le caractère trop typique de tel ou tel objet. Alors là, cette thèse a fait l'objet de discussions et de critiques assez virulentes par un certain nombre de chercheurs, et notamment un compte-rendu d'Erika Fischer et Dirk Wicke, qui est paru dans la revue Die Welt des Orients en 2011, qui conteste finalement l'existence même de ce style international. Alors je ne peux pas rentrer dans le détail de l'analyse, mais dans leur conclusion, ils sont fermement convaincus que le concept de style international est un terme beaucoup trop vague pour évaluer les contacts culturels. Il ne permet pas d'expliquer les mécanismes d'échange qui se sont déroulés dans les arts majeurs et mineurs au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et faute de définition précise, il nécessite des recherches plus approfondies. Les reproches qui sont faits par exemple à l'analyse de Feldman, c'est qu'elle ne prend pas en compte finalement la réalité même des échanges diplomatiques qui sont mis en scène dans les lettres d'Amarna, quand par exemple le pharaon envoie des statues à ses partenaires mitanniens. Est-ce que ces statues ont besoin d'être neutres? Est-ce qu'ils ne correspondent pas aux standards égyptiens, etc., etc. Donc elle voit les deux auteurs du compte-rendu voient dans la création d'un style international une sorte de facilité théorique qui ne permet pas d'analyser véritablement ce qui se passe dans le processus créatif des objets. Un autre auteur qui s'est attaqué à cette question du style international pour en démonter aussi le socle théorique, c'est Peter Felsner, dans un article sur l'art de Katna, donc la ville de Syrie, et donc la question donc du style international s'est parue en 2015. Il souligne dans son analyse que beaucoup de particularités régionales des motifs qui ont été étudiés par Crowley ou par Feldman n'ont en fait pas été identifiés en tant que tels. C'est qu'on a considéré qu'on avait un effacement de toute particularité locale parce qu'on n'a pas fait l'effort d'analyser de manière approfondie les particularités locales qui ressortent à partir du moment où on étudie des corpus amples et structurés pour chacune des localités. C'est ce qu'il fait pour Katna. Alors pour lui, on peut affirmer qu'un style international pur, tel que défini par Crowley et aussi par Feldman, ait existé, car cela impliquerait l'hypothèse sous-jacente non prouvée que l'hybridité complète et l'interculturalité qui en résulte étaient intentionnelles. Donc là aussi, il démonte l'idée qu'il y aurait une intention politique sous-jacente à la création de ces objets hybrides qui tendraient fondamentalement à être neutres. Et pour lui, le fonctionnement de la création de ces objets relève d'une logique différente. Alors, par exemple, il reprend l'analyse de cet objet là qu'on a évoqué tout à l'heure, le pichet en argent du trésor de Tel Basta. Donc, un magnifique ensemble d'objets métalliques qui est maintenant partagé entre différents musées, le Metropolitan Museum de New York, le musée du Caire, il y a d'autres pièces aussi en Allemagne. C'est un trésor d'époque ramesside qui a été découvert en 2006, donc à proximité donc, du temple de Tel Basta. Alors, je vous signale en passant que ce trésor a fait l'objet d'un article très détaillé de Christine Lilliquist en 2012 dans le Metropolitan Museum Journal, où elle analyse en détail l'ensemble des pièces relevant de ce trésor. Bon, elle s'était pas engagée dans l'analyse véritablement de ce que serait un style international. Elle avait simplement noté que les étiquettes qu'on attribue souvent aux styles qui sont appliqués à ces objets, soit style égyptien, étiquette égyptien, motif proche-oriental, finalement, ces étiquettes sont trop restrictives pour décrire ces objets qui ont été produits dans une société qu'elle définit comme culturellement, religieusement et administrativement pluraliste. Mais, donc, comme on l'a signalé tout à l'heure, ces objets ont été souvent cités en exemple de ce style international, notamment par Feldman. Mais Fellner, qui reprend l'analyse donc, de ce pichet, souligne, lui, qu'en fait, il faut séparer les différents éléments de cet objet. On a une anse zoomorphe et un bord recouvert d'or, deux bandes figuratives avec des incisions hiéroglyphiques autour du col, une frise de motifs, ce qu'il appelle internationaux, représentant plusieurs scènes de chasse avec des griffons, des lions et des caprinés, séparés par des volutes composées. Donc, ce qui a amené à attribuer donc cet objet au style international. Mais Felsner objecte que la forme du pichet elle-même est bien attestée localement à Tel Basta, que les inscriptions hiéroglyphiques finalement rattachent entièrement l'objet à la culture égyptienne, la culture locale, et donc finalement il propose d'appeler le style de ces objets un style régional hybride plutôt qu'un style international. Donc on aurait une production finalement locale, mais utilisant des motifs internationaux. Et évidemment, la perspective est entièrement différente parce qu'on ne place plus l'objet dans une sorte de réseau politique qui lui donnerait en quelque sorte, qui conditionnerait sa production. Alors, je profite que l'on parle de cet objet pour signaler que le propriétaire de ce pichet s'appelle Atoumem Taneb, qu'il a vécu à l'époque ramesside, et qu'il porte à la fois les titres de première et chanson du roi, donc c'est un haut personnage, et d'envoyé royal dans toutes les contrées étrangères, donc ce fameux titre d'Uputinesu Erraset Nebet, que nous avions souvent rencontré. Donc c'était un personnage qui était lui aussi en contact direct avec les contrées étrangères, un ambassadeur, donc ce qui a pu influer aussi sur sa volonté d'incorporer des motifs orientaux, internationaux dans ces objets. Donc voilà un bref exposé de cette problématique extrêmement complexe, hein, vous l'avez compris, de l'analyse de ces objets caractéristiques donc de cette culture de cour, pas uniquement pharaonique, mais de l'ensemble du Proche-Orient et de la Méditerranée. On n'a évidemment pas terminé le débat sur la bonne approche que l'on peut avoir de ces productions artistiques. Alors, il y a le côté, évidemment, des productions des objets, et puis il y a la circulation même des artistes hein, qu'on peut évoquer. On sait, par exemple, que des sculpteurs se déplaçaient entre la cour de Babylonie et la cour hittite. C'est mentionné notamment par Zaccanini. Mais en dehors de ces quelques mentions, les preuves tangibles de ces déplacements d'artistes sont relativement rares. Alors là, je ne peux pas évoquer un cas qui a été cité pour finalement prouver le déplacement de tels d'artistes, de tels artistes en Égypte. C'est le fameux cas des palais de Tel Daba, donc Avaris, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans une autre zone du site, qui a été fouillée également par la mission autrichienne de Manfred Bitak, on a découvert deux palais, palais F et G. Donc la datation a été affinée progressivement. En tout cas, on a retrouvé suffisamment d'éléments pour assurer qu'une phase de ces palais correspondait à l'époque de Thoutmose III, phase durant laquelle le palais avait été décoré d'enduits peints d'un type tout à fait original qui présentait des similitudes tant au niveau des motifs que de la représentation picturale avec les peintures murales de la région égéenne. Donc les plus célèbres motifs, c'est évidemment le motif de l'acrobate au taureau hein, qui a pu être mis en regard des scènes des palais minoens de Knossos. Alors ces découvertes ont fait l'objet évidemment de très grands, ont reçu un très grand écho quand elles ont été annoncées, et puis ont fait l'objet de nombreuses discussions par la suite. Alors pour bien comprendre finalement la nature de ces témoignages, en fait ce sont des peintures qui ornaient initialement donc les murs du palais, et puis avec l'évolution du séchage des murs de briques, en fait les fragments d'enduit se sont détachés, sont accumulés, et c'est dans cet état que les archéologues les ont retrouvés, et ils se livrent maintenant patiemment à une reconstitution progressive de l'ensemble de ces peintures. Alors évidemment, C'est à partir de fragments limités, mais en utilisant les parallèles, qu'on peut reconstruire les décorations initiales qui sont, comme vous le voyez, assez impressionnantes. Sur les scènes d'acrobates au taureau, on a un ouvrage qui fait un état de la question paru en 2007 de Bitak Marinatos et Palivou. Vous avez ces superbes reconstitutions. Mais le travail se poursuit encore avec la parution en 2024 d'un autre volume par Johannes Becker, où il montre la reconstitution de d'autres types de motifs, notamment ces félins en train de sauter, donc qui peut être reconstitué à partir de fragments retrouvés sur le même site. On trouve aussi des scènes de chasse, on trouve aussi des motifs de griffons, alors qui ont fait l'objet de beaucoup de débats, parce que évidemment toute reconstitution est une extrapolation. Donc ça, c'était la première restitution proposée par Manfred Bitak. Évidemment, il y a eu plusieurs révisions depuis. Alors la technique utilisée pour ces représentations, c'est celle de la fresque qui était inconnue en Égypte et qui devait donc avoir été importée. Alors quand la découverte a été réalisée, que l'interprétation a pu s'appuyer sur suffisamment de reconstitutions, Manfred Bitak a élaboré une théorie selon laquelle, donc sous le règne d'Hatshepsut ou début du règne de Thoutmôsis III, à une époque d'ailleurs où on voit des représentations de délégations minoennes dans les tombes thébaines par exemple, eh bien il y aurait eu une rencontre de haut niveau entre une délégation de la cour de Knossos et la cour égyptienne, avec probablement une alliance entre les deux cours qui aurait pu se traduire par un mariage. Et vous voyez d'ailleurs dans le trône entouré par les griffons, le trône de la reine qui aurait été installé ici. Alors les artistes qui auraient décoré ce palais minoen de Tel Daba auraient donc fait partie de la suite de cette cour minoenne et donc auraient réalisé la décoration de ce palais pendant leur séjour. Alors ce scénario historique a été critiqué car il ne repose en fait sur aucun élément historique solide. On est évidemment emporté par la reconstitution intéressante qui est proposée, et c'est une possibilité qu'on ne peut pas non plus écarter, mais on n'a aucune donnée tangible qui montre la réalisation de cette alliance. Alors, parmi ceux qui ont critiqué la théorie de Bitak, on peut citer Maria Shaw, qui suggère plutôt de voir dans l'avarice de cette époque une cité multiethnique marquée par différentes communautés où se trouvaient des Minoens et d'autres Égéens avec des artistes itinérants qui auraient travaillé dans la région et qui avaient choisi de s'établir à Avaris plutôt que de retourner dans la zone de la mer Égée qui était devenue instable. Donc ça, c'est ce qu'elle a proposé dans le compte-rendu de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure de 2007 de Bitak, Marinatos et Palivou dans l'American Journal of Archaeology. D'autres comme Louise Hitchcock qui publie dans le Near Eastern Archaeology en 2011 pensent que l'explication la plus simple et la plus logique est que les peintres minoens cherchaient soit de nouveaux mécènes pour échapper aux tensions sociales en mer Égée, soit étaient temporairement offert à la cour du souverain égyptien pour créer des œuvres d'art exotiques et prestigieuses, témoignant de sa connaissance pointue de l'iconographie et des coutumes étrangères. Donc il y a une sorte de mode qui s'était instaurée d'engouement pour ces peintures minoennes qui auraient amené les souverains égyptiens à embaucher des artistes minoens. Alors là, on sort du scénario finalement de l'événement historique, de l'alliance, mais on reste quand même dans un cadre qui fait appel aussi à une sorte d'hypothèse qui ne repose pas forcément sur des données très solides, mais qui permet au moins de rendre compte de la possibilité que ces artistes aient pu être intégrés au tissu local, donc à la 18e dynastie. Alors ce qu'il faut prendre en compte, mais on n'aura pas le temps d'explorer ça en détail, c'est que ce type de décoration est appliqué à des édifices palatiaux ailleurs au Proche-Orient. Hein, on peut citer le palais cananéen de Tel Kabri en Israël, qui date de 1700-1600 avant Jésus-Christ, où Barbara et Wolf Dietrich Niemeyer ont pensé que sur la base de similitudes frappantes entre certains motifs et de ces palais et certains attestés à Akrotiri, hein, à Santorin. Donc on supposait que les peintres actifs donc à Tel Kabri venaient des îles des Cyclades. Là aussi, ils ont pensé à un transfert d'ensemble d'artistes des Cyclades vers le Levant. On peut citer aussi le palais de Katna, au nord-ouest de la Syrie, où on a des peintures datées du milieu du XIVe siècle avant Jésus-Christ, très similaires. Le palais de Yarim Lim, à Tel Hachana, ou Alarak dans l'actuelle Turquie, donc XVIIe, XVIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez différents place au Proche-Orient qui montre, comme en Égypte, la présence de ces décorations qu'on a appelées donc décorations minoennes. En fait, on a des réalisations qui s'étalent sur 3 siècles. Alors évidemment, ça vient complexifier de manière importante toute la réflexion qu'on doit mener sur ces échanges d'artistes, sur ces artistes itinérants qui pourrait aller de cours en cours pour finalement déployer leur talent sur ces parois de palais. On ne peut pas exclure non plus la formation locale, hein, d'artistes empruntant dans certains cas les motifs à des modèles de régions étrangères finalement à leur culture d'origine. Donc on est là dans quelque chose d'extrêmement complexe qui, pour l'instant, ne permet pas d'établir un scénario en quelque sorte extrêmement stable pour justifier donc de la production de ces peintures minoennes à Tel Daba. Alors un dernier point que je voudrais aborder rapidement pour terminer, c'est la question des œuvres littéraires d'origine étrangère à la cour. Alors là, il y a deux cas de figure à distinguer. On a les textes littéraires qui ont servi de base à l'éducation des scribes en langue acadienne. Alors là, on peut utiliser les découvertes de Tel El Amarna, où à côté des lettres de la correspondance qui ont été retrouvées, notamment dans le secteur du bureau de la correspondance, on a une série de tablettes portant des textes littéraires ou des listes à caractère lexical ou scientifique qui ont été découvertes, soit dans le même contexte. Bon, on pense que les scribes rédigeant la correspondance ont pu s'entraîner ou ont pu utiliser ces textes de référence dans le cadre de leur activité professionnelle, soit ces textes ont été retrouvés dans certaines maisons d'El Amarna, et donc on a pu supposer qu'ils étaient associés parfois à des lieux de résidence d'ambassades étrangères à Amarna. Alors vous avez ici quelques exemples. La tablette EA356 à gauche, qui contient une partie du mythe d'Adapa et du vent du sud. Et donc, ce qui est intéressant dans cette tablette, c'est que bon, c'est une tablette cunéiforme, mais des points rouges, alors ici ils sont noirs sur l'image, ont été ajoutés pour délimiter certaines séquences, et c'est une pratique qui est caractéristique des scribes égyptiens. Donc là, il y a eu une rencontre entre la manière dont les scribes égyptiens scandent en quelque sorte les textes et la lecture de textes cunéiformes. On a dans la tablette EA368 un lexique qui transcrit des mots égyptiens anciens en cunéiforme dans la colonne de gauche et donne leur signification en akkadien dans la colonne de droite. Alors ça vient de la maison O4923 qu'on a supposé peut-être être un hôtel mis à disposition d'une ambassade assyrienne ou mitannienne d'après les graphies utilisées. Par ailleurs, la tablette elle-même qui a été analysée, elle est faite d'une argile d'origine locale, hein, ce qui est un indice qu'on avait réalisé cette liste en Égypte. On peut citer la tablette EA374 qui est une liste de noms de divinités du Proche-Orient. Alors on a d'autres tablettes, notamment EA359 qui porte un extrait de la légende du roi du combat qui provient de la maison O472, pas loin de la zone d'atelier des sculpteurs, et de la demeure du général Ramosé. Et on a supposé que cette maison qui contenait cette version du roi du combat, légende de Sargon, pouvait être la maison d'un lettré. Mais bon, évidemment, tout cela repose sur des suppositions. Alors, deuxième cas de figure, ce ne sont pas des textes qui ont servi de base à l'éducation des scribes en langue akkadienne, ce sont des textes qui ont été traduits et adapté en langue égyptienne pour devenir des œuvres à part entière de la littérature pharaonique. Et là, le cas le plus évident, c'est le fameux papyrus d'Astarté, d'après son nom ancien, que Philippe Colombert et moi-même avons rebaptisé donc les dieux contre la mer, quand nous avons pu retrouver en 2000, publié dans le Bifao, la première partie du papyrus qui était conservée à la Bibliothèque nationale et qui n'avait pas été jusqu'alors associée au reste du texte. Alors, on a ce fragment du papyrus Amherst et puis on a des fragments d'autres pages, environ 17, qui donnent un aperçu très fragmentaire de ce texte qui est un conte mythologique qui devait occuper plusieurs dizaines de pages initialement, mais dont on n'a qu'un très faible fragment conservé. Ce texte est fondé sur le mythème du combat des dieux contre la mer, qui est bien attesté dans le contexte mésopotamien. Donc, suite à notre étude, il y a eu une biographie assez conséquente. Je cite simplement l'article de Thomas Schneider, on y reviendra un peu plus tard. Et puis la dernière monographie de référence sur cette question, c'est celle de Ayali Darshan, The Storm God and the Sea, publiée en 2020. Et donc, Ayali Darshan envisage toutes les sources connues pour ce mythe des dieux contre la mer, qui est attesté dans tout le Proche-Orient ancien, avec dans chaque langue une version séparée, en quelque sorte indépendante, On a un protagoniste qui prend l'apparence du dieu de l'orage local, qui va combattre la mer, qui va la vaincre et qui va être ensuite intronisé. C'est la base de l'histoire, le cœur du récit. Et ensuite, on a des adaptations locales dans différentes régions, en Syrie, en Égypte, dans le Hatti, à Ougarit, en Mésopotamie et Israël. Et puis, on aura même des diffusions du motif beaucoup plus large jusqu'à la Grèce et l'Inde. Alors, ce qui est important de noter, donc, c'est qu'on a une adaptation ici égyptienne de motifs mésopotamiens avec mélange de dieux mésopotamiens, donc Astarté et Baal. Et puis aussi, on a dans l'introduction du texte un cadre narratif qui est en fait la glorification du roi Amenhotep II, qui va s'identifier au dieu Baal qui va être ensuite le protagoniste de l'œuvre. Donc vous avez le début du texte ici, l'an 5, le troisième mois de Pérès, jour 19, que vive le roi de Haute et Basse Égypte, etc., Amenhotep II, doué de vie éternellement à jamais, apparu sur le trône d'Horus comme son père Ré chaque jour. Et le titre renouvelé qu'il a fait pour l'Énéade afin de combattre la mer. Et ensuite, on a une célébration du héros qui sert d'introduction au texte. Je veux célébrer tes exploits, je veux exalter ta puissance en racontant ce que tu as fait alors que tu n'étais qu'un enfant. Tes hauts faits sont comme des enseignements devant mes yeux. On a ensuite la création du héros et ensuite le texte est très abîmé, mais on comprend qu'en fait les dieux égyptiens sont confrontés aux revendications de Yam, de la mer, qui est un être très menaçant, qui cherche à accaparer Astarté et qui réclame un tribut de plus en plus important. Alors les dieux égyptiens vont d'abord essayer de céder, de négocier, et puis finalement c'est Set alias Baal, donc le dieu guerrier qui va battre Yam et pouvoir rétablir la prospérité de l'Énéade. Ce qui apparaît ici, c'est que le roi Amenhotep II s'identifie à Baal et se met sous sa protection. On a en fait probablement la trace d'une performance de cour qui s'insérait dans un dispositif cérémoniel où on glorifiait le roi Amenhotep II en mobilisant un mythe proche-oriental. Il y avait probablement une mise en scène qui était faite à la cour pour adapter en quelque sorte ce texte issu du Proche-Orient à la gloire du pharaon. D'une certaine façon, il devait y avoir une performance littéraire qui prolongeait les échanges et les cadeaux diplomatiques entre la cour égyptienne et les ambassades étrangères. Il y a, à notre sens, une continuité directe entre les activités diplomatiques des courtisans égyptiens à cette époque, on pense à Khénamon notamment sous Amenhotep II, et la mise en œuvre de tels spectacles de paroles qui devaient avoir en partie les mêmes cadres. Donc un déploiement à la gloire d'Amenhotep II qui se fait par le truchement d'une œuvre proche-orientale adaptée en égyptien. Alors, bon, je n'ai pas le temps de développer tous les points. Je vous renvoie donc à la publication du BIFA au 100. Dans cette publication, nous avions associé la cérémonie probablement à l'implantation de cultes proche-orientaux au début du règne d'Amenhotep II. Il s'agit peut-être de célébrer l'implantation d'un sanctuaire de Baal ou un sanctuaire d'Astarté dans la région Menfite. Thomas Schneider, dans l'article que je citais tout à l'heure, lui, discute la datation du texte, pense qu'elle est, qu'il doit être plus tardif, et qu'en fait, ce texte n'est pas à la gloire d'une installation qui a été faite sous Hatshepsut II, mais est à la gloire de l'installation de la nouvelle capitale ramesside, Pi-Ramsès. Donc vous voyez à quel point les interprétations peuvent diverger entre les chercheurs à travers un même document. Et même si là, on a une date assez claire sous Amenhotep II, donc Schneider pense que c'est en fait une référence au passé qui est faite dans cette introduction, mais que le contenu doit être plutôt de création ramesside. L'ancrage que nous proposions pour le texte, c'était la localité de Perounéfer, donc un lieu de portuaire. Alors, où est Perounéfer? On avait évoqué avec notamment l'installation de Kenamon sous Amenhotep II, qui devient l'intendant de Perounéfer. C'est une zone portuaire qui est située soit à Memphis, comme le pensent un certain nombre d'auteurs, je pense à David Jeffreys, Stéphane Pasquali et tout récemment donc Louis Dauté. Et puis d'autres pensent que Perounéfer, c'est en fait Avaris, une partie d'Avaris, et c'est notamment la théorie de Manfred Bittack. Là encore, on manque de documents extrêmement clairs pour assurer la localisation de Perounéfer. Il n'en reste pas moins que si le texte transcrit bien une cérémonie qui s'est déroulée sous Amenhotep II, le lien avec Perounéfer, qui est un lieu d'implantation des divinités proche-orientales, bien attesté, paraît évident, et donc ce site aurait pu fournir le cadre de l'événement. Donc vous voyez, quoi qu'on pense sur l'événement auquel on peut rattacher ce texte, il y a une preuve ici que la culture mésopotamienne était délibérément acclimatée à la cour de Pharaon, et ce que Thomas Schneider d'ailleurs a résumé ainsi, la culture de cour égyptienne semble avoir activement promu et intégré les influences étrangères plutôt que de simplement les contrôler passivement. Donc il y a une sorte d'appétence pour la culture des voisins, hein, qui est ici mise en scène dans des cérémonies de cour. Quelques mots en conclusion de ce cycle d'enseignement que nous avons consacré aux courtisans et diplomates au Nouvel Empire. Le fil directeur que nous avons suivi était la relation qui existait entre la société de cour qui se perpétue au Nouvel Empire sur des bases analogues à celles des époques précédentes, et d'autre part, donc l'ouverture, non pas totalement nouvelle, mais en tout cas plus marquée, à d'autres empires et royaumes possédant eux aussi leurs souverains et possédant eux aussi leurs cours. Dans ce contexte internationalisé, on l'a vu, le courtisan joue plus qu'un rôle d'intermédiaire indispensable avec les entités politiques et leurs représentants, il officie en tant qu'ambassadeur, parfois plénipotentiaire, de la royauté pharaonique, dépositaire du message royal et habilité à négocier au nom du roi. Nous avons vu comment ces aptitudes distinguent plus que beaucoup d'autres ceux qui les possèdent au-dessus des autres dignitaires de la cour, et permettent la promotion remarquable des porteurs de mission au rang de favoris du roi. Ce métier d'ambassadeur, car il apparaît que c'en est un, au vu de la permanence dans le temps des fonctions exercées par ses émissaires royaux, comme les Tchérouimès, on l'avait vu, ce métier d'ambassadeur donc implique une excellence dans le maniement du discours, une capacité à convaincre, qui est aussi une qualité cardinale dans la compétition de cour ou le monde des lettrés égyptiens. Il y a d'ailleurs, on l'a vu, une continuité entre ces deux mondes, hein, celui de la cour et celui des lettres, qui se fait jour de manière éclatante dans les cérémonies de récompense ou de célébration, où se déploie une éloquence d'apparat qui est au centre du rituel de la cour. Et la performance qui est produite peut prendre aussi la forme d'un récit littéraire, C'est le cas du papyrus d'Astarté que nous venons de voir, qui nous en a fourni un exemple singulier. On a vu aussi l'appétence qu'avait la cour égyptienne pour les innovations issues du Proche-Orient et aussi certaines transformations idéologiques à l'œuvre par l'inclusion des codes proche-orientaux dans les pratiques de cour. Je suis bien conscient que c'est un très vaste sujet que nous n'avons fait parfois qu'effleurer, mais l'enjeu était en tout cas pour nous de remettre la cour au centre de l'analyse. Nous prolongerons cette perspective, si vous le voulez bien, cette fois-ci pour le premier millénaire, à l'occasion du colloque qui aura lieu donc au Collège de France le lundi 13 avril 2026 et qui sera intitulé « À la cour du Dieu, organisation religieuse et mécanismes de cour dans l'Égypte du premier millénaire avant Jésus-Christ ». Je vous y attends nombreux et je vous remercie toutes et tous pour votre attention. À l'année prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.